L'heure de retrouver le journal de la rédaction et Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Nicolas.
C'est aujourd'hui que le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer sur une résolution de cessez-le-feu immédiat à Gaza.
Un texte à l'initiative des États-Unis qui jusqu'alors écartait cette hypothèse. Un vote, on le verra, à l'issue toutefois encore incertaine. Les Européens vont-ils taxer les importations de céréales russes pour priver Moscou de revenus finançant son offensive contre Kiev? La Commission en a fait la proposition ce matin. Les 27 doivent encore s'accorder. Nous serons en direct de Bruxelles. On se rendra également au Sénégal pour la toute fin de la campagne présidentielle. On s'intéressera par ailleurs aux caisses de campagne aux États-Unis. À suivre aussi cette proposition ce matin de la présidente de l'Assemblée nationale en France, Yael Braun-Pivet, de taxer les super profits des grandes entreprises. Enfin, avec notre invité aujourd'hui, le néphrologue Valentin Goutaudier, on reviendra sur cette annonce hier de la toute première transplantation d'un rein de porc chez un patient humain. Après plus de 5 mois de guerre entre Israël et le Hamas, la résolution portée au vote du Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui va-t-elle mettre fin à cette folie meurtrière face au désastre humanitaire innommable en cours à Gaza? Les États-Unis, qui jusque-là avaient systématiquement soutenu le droit de leur allié historique Israël à se défendre, ont fini par faire volte-face et réclamer donc un cessez-le-feu immédiat dans le territoire ravagé, assiégé et affamé. Ce matin, la Chine s'est dite en faveur d'une action significative du Conseil de sécurité. Pour autant, l'issue de ce vote reste donc incertaine, compte tenu notamment de la position de la Russie, elle-même encore condamnée ce matin par le Royaume-Uni et l'Australie pour son invasion massive, illégale et immorale de l'Ukraine. Christian Chéneau, bonjour.
Bonjour.
Alors, ça n'est pas la première fois qu'on assistera donc aux grandes manœuvres diplomatiques, mais c'est vrai que cette bataille aujourd'hui à l'ONU, Christian, pourrait marquer un tournant dans la guerre.
Oui, le changement de pied de la Maison-Blanche vis-à-vis de son allié israélien change effectivement la donne diplomatique. On le sait, dans le conflit israélo-palestinien, rien de déterminant ne peut se faire sans le feu vert de Washington. Pour l'heure, rien n'est joué, car le projet américain de résolution va donner lieu à d'intenses tractations en coulisses. Le texte proposé par Washington pourrait être amendé. Les diplomates doivent trouver le point d'équilibre cristallisant le consensus des 15 membres du Conseil de sécurité. C'est peu dire que dans ce genre d'exercice diplomatique, chaque mot compte, tout se joue à la virgule près. Il faut surtout éviter un veto d'un des membres permanents du Conseil, comme la Russie. Or, Moscou réclame déjà un appel plus clair à faire taire les armes, car la proposition américaine n'exige pas un cessez-le-feu, mais insiste sur la nécessité d'un cessez-le-feu. Les Russes pourraient donc vouloir muscler le texte en intégrant une formulation plus contraignante. Et vous l'avez dit, Thomas, on ne sait pas encore quelle sera la position de la Chine. Dans cette bataille diplomatique, 10 autres membres du Conseil de sécurité, dont le Japon et l'Algérie, préparent un autre projet de résolution plus offensif qui exige un cessez-le-feu humanitaire immédiat conduisant à un cessez-le-feu permanent et durable. Le Quai d'Orsay a fait savoir que la France travaillait, elle aussi, sur la rédaction d'un texte en cas d'échec de l'initiative américaine.
Merci Christian Chéneau. Alors, signe là aussi des efforts désormais déployés par Washington pour parvenir à une trêve. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé ce matin en Israël. Les négociations se poursuivent toujours également à Doha entre représentants des États-Unis, du Qatar et de l'Égypte. Et pendant que les diplomates s'activent, les affrontements se poursuivent dans l'enclave palestinienne et en particulier dans et autour de l'hôpital Al-Shifa, le plus important du territoire. On évoquait à l'instant l'incertitude autour du vote de la Russie sur cette résolution de cessez-le-feu. La Russie qui plus que jamais entend mener jusqu'au bout sa guerre d'agression de l'Ukraine. Cette nuit, ce sont pas moins de 90 missiles et 60 drones explosifs qui ont été lancés par Moscou, faisant au moins 5 morts, soit l'une des plus importantes attaques aériennes menées par l'armée du Kremlin, essentiellement sur les infrastructures énergétiques de son voisin. De leur côté, les dirigeants européens réunis en sommet à Bruxelles ont avancé sur les moyens de mieux armer l'Ukraine en utilisant les bénéfices provenant des avoirs gelés de la Russie. Puis aujourd'hui, la Commission a proposé d'imposer des droits de douane sur les céréales russes, car celles-ci, assez étrangement d'ailleurs, en sont toujours actuellement exemptées. Alors cette mesure présenterait un double avantage. Non seulement elle priverait Moscou des recettes de ses exportations et donc d'une partie des moyens de financer sa guerre d'invasion. Et puis sur le plan intérieur, à l'échelle du vieux continent, cette fois-ci, elle répondrait aussi en partie à la colère des agriculteurs. Angélique Boin, bonjour.
Bonjour.
Correspondante de France Culture à Bruxelles. Alors, hier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait dit regretter que les importations de céréales russes en Europe ne soient quasiment pas taxées, alors même que les Européens, sous pression des agriculteurs, envisagent de le faire pour les produits agricoles ukrainiens au-delà d'un certain seuil d'importation, une anomalie angélique que les 27 s'apprêteraient donc à corriger.
Ah oui, alors ce qu'il faut rappeler, c'est que la Russie et l'Ukraine sont parmi les gros greniers à blé du monde. Et au début de la guerre, eh bien, pour éviter une crise alimentaire mondiale, les 27 s'étaient interdits de sanctionner le grain russe. Il faut souligner que les volumes ne sont pas très importants, 1% seulement de la consommation européenne selon la Commission. Mais en 2023, les importations ont beaucoup augmenté et rapporté 1,5 milliard d'euros à Moscou. L'idée est donc d'abord de priver, vous l'avez dit, la Russie de cet argent. Mais Bruxelles redoute aussi à terme que Poutine ne se serve de son blé pour déstabiliser nos marchés, comme il l'a déjà fait avec les cours mondiaux. L'objectif est donc d'établir des droits de douane très importants, prohibitifs, jusqu'à 50% du prix de la tonne sur le blé, le maïs ou le tournesol. Alors bien sûr, seuls les produits vendus en Europe sur nos marchés seraient taxés. Ceux qui transitent seront épargnés pour éviter des pénuries dans le reste du monde. Cette décision, elle ne requiert ni unanimité des Européens, ni vote du Parlement. Elle pourrait donc être prise et appliquée assez rapidement. Alors est-ce que cela réglera le problème des céréaliers européens en particulier? Pas vraiment, c'est assez symbolique, car leur principal souci, on le rappelle, c'est le fait que la guerre a totalement bousculé leur marché. La France en particulier a perdu des débouchés dans des pays d'Afrique où la Russie brade en ce moment son blé. Ce sujet très sensible est au menu en ce moment du déjeuner des dirigeants. Ils discuteront aussi, vous l'avez évoqué, des importations de céréales ukrainiennes, beaucoup plus importantes en volume, qui déstabilisent le marché polonais en particulier. Un accord avait été trouvé en début de semaine pour les plafonner. Accord jugé insuffisant par Paris et Varsovie, dont on va donc rediscuter.
Merci Angélique Bouin, en direct de Bruxelles.
Après un mois de retard et d'innombrables rebondissements, les Sénégalais seront appelés aux urnes dimanche pour choisir leur président.
Au total, 17 candidats sont en lice qui, à l'issue d'une campagne express à peine 15 jours, jusqu'à ce soir minuit pour écumer le pays et tenter d'offrir une alternative entre changement et continuité. Omar Ouaman s'est rendu hier dans la banlieue de Dakar pour y suivre un ancien Premier ministre, Amadou Ba, désigné candidat de la majorité par le président Macky Sall. Reportage.
C'est une foule en liesse qui acclame le candidat de la coalition au pouvoir. Ses sympathisants comme Aminata ont dû attendre minuit avant de le voir monter sur scène.
Je suis là pour accueillir notre candidat Amadou Ba, le meilleur candidat, parce qu'il a tout, son parcours est riche, on le veut.
Aminata a été acheminé par bus, comme la majorité des militants dont l'enthousiasme manque de naturel. Awa, une mère de famille, ne connaît même pas le nom de celui qu'elle est venue soutenir.
On est là pour chercher celui qui va rester président du Sénégal.
Comment il s'appelle?
Si Awa nie avoir été rémunéré pour ovationner le candidat du pouvoir, Fatou, en revanche, l'assume, le t-shirt à l'effigie d'Amadou Ba sur le dos.
On est là juste pour de l'argent, mais on ne va pas voter pour Amadou Ba, les Macky Sall là, non. Ce sont des corrompus.
Ils vous ont donné combien?
5000 francs et le t-shirt. On mange, on vient ici, on crie Amadou Ba, alors qu'on n'est pas avec Amadou Ba. Nous, on est avec Ousmane Sonko jusqu'à la mort.
Ousmane Sonko, l'opposant anti-système, écarté de la course présidentielle avant de céder la place à son bras droit, Bassirou Diomaye Faye. C'est ce candidat soutenu par une large partie de la jeunesse qui représente la plus grande menace pour Amadou Ba.
Un reportage à Dakar signé Omar Ouaman et Jérémy Tuil.
C'est le nerf de la guerre d'une campagne électorale et aux États-Unis peut-être même encore plus qu'ailleurs.
C'est vrai que dans la vie électorale américaine, l'argent, loin d'être un tabou, est souvent un motif de fierté pour le camp qui en amasse le plus. En l'occurrence, les sous ne rentrent pas exactement de la même manière dans les caisses des deux candidats quand Joe Biden, bien qu'impopulaire et à la peine dans les sondages, amasse les réserves en liquide. Donald Trump, lui, a surtout tendance à vider les caisses. Les précisions depuis Washington de Sébastien Paour.
Trump prend le large dans les sondages, mais c'est Biden qui est devant à la banque. Le président démocrate a aujourd'hui dans ses caisses de campagne plus du double de ce que possède son adversaire républicain. 71 millions de dollars pour Biden, 33 millions et demi pour Trump. Chiffres officiels d'après les documents déposés cette semaine par les deux camps auprès de la Commission électorale fédérale. Mais Trump dépense beaucoup plus avec ses frais de justice, 50 millions de dollars l'an dernier en honoraires d'avocat, près de 6 millions rien qu'en février, sans compter le quasi demi-milliard à trouver avant lundi pour éviter des saisies dans le procès pour fraude financière au sein de son empire immobilier. Alors il multiplie les événements pour courtiser les grands financiers du Parti républicain, des dîners privés organisés dans sa résidence de Floride. Même Elon Musk y était il y a moins de 3 semaines, mais officiellement Trump n'a pas demandé d'argent au patron de Tesla.
Vous écoutez France Culture, il est 12h40 et c'est la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
À moins de 3 mois des élections européennes où le parti présidentiel est à la traîne dans les sondages et tandis que la France s'attend à un déficit public nettement plus dégradé qu'attendu. Voilà que la présidente de l'Assemblée nationale s'est dite favorable ce matin à une réflexion sur une contribution exceptionnelle des grandes entreprises en cas de super profit. Valentin Gris, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors cette annonce intervient évidemment dans un contexte particulier après que le gouvernement a déjà annoncé un tour de vis budgétaire, mais pas seulement, car Yael Braun-Pivet se rendra ce dimanche au congrès du Modem. Or, cela fait plusieurs années déjà, Valentin, que les alliés centristes du parti présidentiel réclament des mesures de justice fiscale.
Oui, le parti centriste avait notamment déposé un amendement au projet de loi de finances 2023 pour imposer une flat tax de 35% sur les dividendes exceptionnels. Yael Braun-Pivet s'était elle-même positionnée en faveur de la taxation des super profits réalisés après la pandémie par quelques entreprises, on s'en souvient. Mais Bercy s'était montré inflexible, Bruno Le Maire n'employant le terme que pour mettre la pression sur des secteurs précis, les raffineries par exemple, ou encore les sociétés d'autoroutes dont le gouvernement se serait bien vu capter une partie de la rente concessionnaire. L'exécutif est désormais acculé par un déficit public plus élevé qu'attendu, 5,6% l'année passée selon l'INSEE. Mais la réponse économique pour l'instant, vous l'avez dit, c'est de baisser les dépenses. 10 milliards cette année, 20 milliards l'année prochaine. Tout plutôt que de trouver de nouvelles recettes auprès des grandes entreprises.
Et cette question des super profits, Valentin, est revenue dans l'actualité ces derniers mois, notamment à la faveur de l'inflation.
Oui, car celle-ci creuse clairement un fossé entre les entreprises qui peuvent répercuter la hausse de leurs coûts et celles qui ne peuvent pas. La dernière salve de résultats des entreprises du CAC 40 offre un panorama de résultats records, alors même que la croissance française est sur le déclin et que l'économie mondiale ne grandit pas aussi vite que prévu. Surtout, l'utilisation des profits est pointée du doigt. La moitié va aujourd'hui aux actionnaires et ne sert pas de l'investissement, par exemple, contre un tiers environ historiquement. Les dividendes ont bondi de 15% en un an pour dépasser les 70 milliards d'euros. Les firmes multiplient aussi les rachats d'actions pour doper leurs cours, une pratique qualifiée de cynique par Emmanuel Macron et encadrée dans le dernier budget, mais sans l'ombre d'une taxe donc pour le moment.
Merci Valentin Gris.
Après une visite hier dans les Pyrénées-Orientales pour tenter de trouver des solutions au manque cruel d'eau dans le département, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, est attendu aujourd'hui à Nancy.
Oui, plus exactement à Novacarb, l'une des entreprises les plus polluantes de France et l'un des 51 sites manufacturiers qui à eux seuls représentent 25% de la consommation d'eau de toute l'industrie française. Véronique Robérot, bonjour.
Bonjour.
En l'occurrence, ces sites parmi les plus consommateurs en eau se sont engagés à en réduire leur utilisation de plus de 10% avant 2030.
Alors ces sites ont été choisis selon 3 critères. Leur production nécessite énormément d'eau, ils sont fortement consommateurs de la ressource. Ils sont installés dans des zones, c'est le 2e critère, en tension hydrique. Beaucoup de ces industries se trouvent d'ailleurs dans les Bouches-du-Rhône. Et 3e critère, il y a une marge de manœuvre possible, la perspective de faire de vraies économies d'eau. Alors ces 51 sites parmi les plus consommateurs, vous l'avez dit, s'engagent à réduire leur utilisation de 10% avant 2030 et même davantage. Au-delà, espère le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu, 5 autres sites pourraient aussi prochainement volontairement rejoindre l'initiative. Alors, parmi ces industries, on trouve le géant de l'acier ArcelorMittal, Coca-Cola et son site de l'Essonne, Danone en Seine-et-Marne, Solvay en Meurthe-et-Moselle, Saint-Gobain, la chimie et l'agroalimentaire représentent plus de la moitié des sites concernés. Au total, 357 millions d'euros seront investis pour mener à bien des projets bien de sobriété avec l'intention, si ces projets sont menés à leur terme, de générer une économie d'eau de 77 millions de mètres cubes d'eau. L'aide de l'État passe surtout par des études ou des expertises conduites par des agents de l'État aux industries ensuite de financer et d'agir en investissant eh bien, dans des stations d'épuration, dans la réutilisation de leurs eaux usées, c'est la piste la plus prometteuse, et puis aussi en faisant la chasse aux fuites d'eau phénoménales également dans l'industrie. En France, 1/5 de l'eau se perd à cause des fuites.
Merci Véronique Robérot.
Comment repousser les frontières de la science et transformer la médecine?
Nombreux déjà sont ceux à parler d'une avancée majeure, un exploit de nature à révolutionner la greffe d'organes et surtout offrir une potentielle solution à la pénurie chronique des dons d'organes. Hier, un hôpital américain à Boston a fait état de la première transplantation d'un rein de porc chez un patient humain vivant. Alors, une nouvelle frontière a-t-elle été franchie pour le savoir? Invité de la rédaction question aujourd'hui, Valentin Goutaudier, néphrologue, chercheur à l'Institut de transplantation de l'Université Paris-Cité. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Je le disais, les superlatifs étaient nombreux hier pour saluer cette première mondiale. Précisons tout de même que des reins de porc génétiquement modifiés avaient déjà été transplantés, mais uniquement sur des humains en état de mort cérébrale. Et puis, des patients vivants, cette fois-ci, ont également déjà reçu une greffe de cœur d'un porc génétiquement modifié, mais sont ensuite décédés. Est-ce que, avec l'annonce d'hier, on a véritablement franchi un cap ?
Ah oui, on a clairement franchi un cap. C'est une vraie prouesse médicale, chirurgicale, scientifique historique, qui a vraiment de grandes chances de pallier la pénurie mondiale d'organes.
Le communiqué publié hier précise que le patient, donc âgé de 62 ans, se remet bien de l'opération, qu'il devrait pouvoir quitter l'hôpital prochainement. Qu'est-ce que l'on peut dire quant au profil de cette personne ?
C'est un patient qu'on dit hyper-immunisé, c'est-à-dire qu'il a eu une greffe antérieure, a développé des anticorps et a donc de faibles chances de trouver dans un délai raisonnable un donneur compatible. Donc c'est pour ça en fait que ces médecins à l'hôpital du MDH lui ont proposé un rein de porc dans l'attente en fait d'avoir un rein humain compatible.
Alors effectivement, cette personne s'est portée volontaire, c'est ce qui a permis cette opération. Sur ce point, est-ce que la loi diffère selon que l'on se trouve aux États-Unis ou en France ?
Oui, tout à fait. Donc aux États-Unis, c'est autorisé. C'est actuellement en fait approuvé par la FDA, qui est l'agence de santé aux États-Unis, à titre compassionnel, ce type de xénotransplantation. En France, pour l'instant, il y a une barrière réglementaire, mais de nombreuses discussions au niveau des institutions nationales, donc les choses vont peut-être bouger.
Concrètement, est-ce que avec cette greffe, on va désormais basculer de la phase donc des essais expérimentaux à celle des essais cliniques ?
Tout à fait. Comme vous l'avez dit précédemment, jusqu'à là, on était dans des expérimentations chez des patients en état de mort cérébrale. Là, clairement, on fait un pas dans la réalité clinique et on peut parler d'essais cliniques, oui.
À quelle échéance ?
À quelle échéance ? Eh bien, on va déjà voir les résultats chez ce premier patient qu'on va surveiller attentivement, voir comment son greffon évolue, comment évolue le patient, s'il va développer des signes de rejet, des signes de transmission, d'infection aussi d'agent porcin, qui est un des risques. Et puis, on verra comment les choses évoluent pour la suite.
On est capable d'évaluer le niveau de ces risques aujourd'hui ?
Tout à fait. Donc nous, dans l'équipe, on a travaillé justement sur le risque de rejet après ce type de xénogreffe, notamment chez les deux premiers patients qui ont été transplantés, qui étaient en état de mort cérébrale. On a vu qu'il y avait des signes qu'on dit moléculaires de rejet, mais on a trouvé des pistes, en fait, pour améliorer les modifications génétiques des porcs, les traitements des patients et optimiser les résultats.
Quelles pistes, en l'occurrence ?
Des pistes, si vous voulez, pour faire assez simple, on a vu que c'était un rejet où on voyait une infiltration dans le tissu avec certaines cellules immunitaires particulières. Il se trouve qu'il y a des modifications génétiques qui permettent notamment d'éviter l'infiltration du tissu par ces cellules immunitaires. Donc ça pourrait être une piste.
Je l'évoquais en introduction, les greffes d'organes porcins constituent un espoir important de répondre à la pénurie de dons d'organes, et notamment dans le cas des reins, justement, l'organe aujourd'hui le plus souvent requis. Est-ce que cet espoir est réaliste ? Est-ce que dans un futur proche, en clair, on va pouvoir voir ces greffes se normaliser ?
Ben, j'ai envie de vous dire que il faut avancer pas à pas et voir les résultats. Ce qui est certain, c'est que ça avance très vite, qu'il y a une forte demande de la part des sociétés savantes, des patients, parce que pour vous donner un ordre d'idée, actuellement en France, il y a environ 20 000 patients qui sont en attente d'un rein sur la liste d'attente nationale, et on ne peut en greffer que 3600 par an. Donc il y a une vraie demande.
Quel est l'avantage d'utiliser, en l'occurrence, des organes de porc ?
Disons que le vrai avantage, c'est qu'en théorie, ça pourrait produire une source illimitée et renouvelable d'organes, et donc pallier la pénurie.
Cette opération, elle marque aussi une victoire symbolique importante pour une entreprise en particulier, eGenesis, qui a produit donc ce rein de porc génétiquement modifié, qui a servi à la greffe. Est-ce que cela signifie que l'éventuel marché pour ces xénogreffes, donc ces greffes d'un organe animal vers l'homme, est déjà investi par les acteurs économiques ?
Vous avez raison de le souligner. Ce qui permet un développement actuellement très important de la xénotransplantation, ce sont ces entreprises américaines, donc il y a eGenesis, mais également Rovivicor, qui ont investi en fait pour développer des fermes d'animaux, produire des cochons, les élever. Donc il y a un marché potentiel, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'actuellement c'est un partenariat public-privé, donc avec des compagnies américaines privées qui fournissent les organes, mais tout cela est fait par des partenaires académiques et avec toutes les bonnes réglementations pour faire de la bonne recherche.
Et c'est le cas aussi en France ou en Europe ?
Alors actuellement en France, on ne peut pas encore faire ce type d'expérimentation.
Très bien, merci Valentin Goutaudier, néphrologue et chercheur, je le rappelle, donc à l'Institut de transplantation de l'Université Paris-Cité, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Louise Guérin pour la préparation. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, marqué par l'arrivée d'une nouvelle dégradation sur la Bretagne et les côtes de la Manche, qui gagnera progressivement les Hauts-de-France. Partout ailleurs, le temps restera printanier et ensoleillé. Quant aux températures, elles seront comprises entre 13 et 27 degrés. C'est la fin de ce journal, il était réalisé par Nicolas Paumet, et à 18h, vous avez rendez-vous avec Nicolas Balu pour le prochain journal de la rédaction.